L'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
C'est la deuxième partie d'Appel sur l'actualité, la libre antenne. Vous vous exprimez sur l'actualité de votre choix. Vous nous interpellez sur les sujets qui vous ont marqué cette semaine. Je vous cache pas qu'une fois de plus, vous êtes très nombreux à souhaiter réagir à la crise post-électorale au Gabon. On va d'ailleurs commencer immédiatement avec ce sujet qui retient votre attention. C'était hier, vous le savez, la date butoir. Tout le monde se posait la question. Est-ce que l'opposant Jean-Ping allait oui ou non saisir la Cour constitutionnelle? Eh bien oui, c'est fait. Il conteste les résultat de l'élection présidentielle. Il conteste donc sa défaite devant cette instance. L'opposant qui demande, je le rappelle, un recomptage des voix dans le Haut-Ogooué où le président Ali Bongo l'a remporté avec 95% des voix et un taux de participation frôlant les 100%. Bonjour Jean.
Bonjour Juan, bonjour aux auditeurs de RFI.
Vous nous appelez de Port-Gentil. Vous êtes très satisfait de la décision de Jean-Ping?
Oui, effectivement, je suis satisfait par cette décision de Monsieur Jean-Ping, car de mon point de vue, c'était la seule voie pour ne pas s'enfoncer davantage dans l'enlisement, puisque c'est le processus qui est prévu par les lois gabonaises. Il fallait partir devant la Cour constitutionnelle, et tant mieux qu'au dernier moment, il est fait.
Et pourtant, toute la semaine, l'opposition n'a cessé de décrier cette Cour constitutionnelle en affirmant qu'elle était aux ordres d'Ali Bongo. Ça semble quand même surprenant, non?
De mon point de vue, les arguments que l'opposition a avancés, même s'ils sont recevables, il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est la seule institution habilitée à valider les résultats de l'élection. Et donc c'est vrai que l'opposition a avancé ces arguments là mais en même temps à chaque fois les élections au Gabon, ça s'est toujours passé de cette manière là et donc
à chaque fois Jean, à chaque fois l'opposition a dénoncé des fraudes et à chaque fois l'opposition a perdu au final.
Oui, pour s'agissant des élections présidentielles, alors c'est vrai que des fois la Cour a pu invoquer simplement des vices de forme, parfois l'opposition n'a pas été en mesure, selon la Cour du moins, de présenter des preuves suffisantes. Je rappelle quand même que de temps en temps aussi, c'est vrai, à un degré moindre au niveau des élections législatives, il est déjà arrivé que cette Cour invalide une élection remportée par un candidat du PDG.
Oui, mais enfin, là, il s'agit de la présidentielle et l'enjeu est évidemment majeur. Jean, ne raccrochez pas, vous restez en ligne de Port-Gentil. Xavier, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous êtes à Libreville. On vous écoute donc.
Je voudrais saluer ici M. Jean-Ping qui est revenu à la légalité constitutionnelle, en respectant pour une fois les institutions de la République, parce qu'ils avaient habitué à mépriser le peuple et les institutions. L'autre chose, c'est que ce recours va permettre de faire la lumière sur des anomalies évidentes apparues dans l'élection, parce que M. Jean-Ping a violé les règles de l'arithmétique à partir du moment où il s'est octroyé des scores de 104%, notamment à Bitane, beaucoup plus que ceux qui clament le 95% qu'Ali Bongo a eu dans le Haut-Togo, ce qui est tout à fait normal dans une démocratie.
Alors, excusez-moi, Xavier, excusez-moi, vous dites que Jean-Ping a fraudé, c'est exactement ce que disait Ali Bongo sur notre antenne mercredi, il accusait Jean-Ping d'avoir fraudé, notamment dans son fief. Ce qui est surprenant, c'est que Ali Bongo n'a pas saisi la Cour constitutionnelle.
Monsieur Jean-Ping s'est rendu coupable de fraude. Et comme je le disais, la troisième chose, c'est que ces anomalies, ce recours va permettre de mettre en valeur, parce que Ali Bongo aussi va faire un recours, puisqu'il va devoir démontrer qu'il y a eu un complot national et international visant à la fois à faire ingérence dans le processus électoral gabonais, deuxièmement à organiser une fraude massive pour faire en sorte que M. Jean-Ping puisse se retrouver à la tête du Gabon.
Oui, mais c'est surprenant, donc, excusez-moi Xavier, c'est surprenant qu'un candidat, certes proclamé vainqueur par la commission électorale, affirme que l'opposant a fraudé et qu'il ne saisisse pas de l'occasion pour saisir la Cour constitutionnelle et déposer un recours. Ce serait quand même intéressant que la Cour constitutionnelle puisse se pencher sur les bureaux de vote dans le fief de l'opposant Jean-Ping.
Ali Bongo a préparé son recours et attendait sagement que celui qui conteste, parce qu'Ali Bongo ne conteste pas les résultats, Ali Bongo a gagné l'élection et oui. Il a gagné réellement malgré le dispositif de fraude massive que M. Jean-Ping et ses amis au pouvoir, au PDG. Et quand on regarde les dernières démissions, on comprend aisément que le complot était énorme pour empêcher non seulement Ali Bongo de réaliser son projet, oui. Mais ensuite d'être réélu à la tête du Gabon. Donc bon. Ali Bongo a préparé son recours en bonne et due forme pour démontrer comment M. Jean-Ping a triché.
Alors, on attend les preuves, on attend encore les preuves, et le pouvoir l'a dit hier, nous apporterons les preuves qu'il y a eu tentative de falsification informatique des résultats par l'opposition, et s'agissant de la non-saisie de la Cour constitutionnelle par Ali Bongo, eh bien le porte-parole du parti présidentiel a déclaré que ce n'était pas aux vainqueurs de déposer un recours. François, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également au Gabon, on vous écoute.
Oui, je suis au Gabon et à mon sens, je crois qu'il n'aurait même pas dû déposer ce recours. Parce que le sentiment général aujourd'hui, c'est que les dés sont pipés. On est tous allés aux urnes, donc on s'est exprimé. Cette décision n'a pas été respectée. On a fait confiance à une partie du processus qui aujourd'hui pose problème. Rien ne nous garantit donc que la suite sera meilleure. On a fait confiance à la CNAP malgré tous les doutes que l'on avait et malheureusement elle a renforcé ces doutes.
Ouais, mais la voie légale est de contester les résultats de l'élection présidentielle en passant par la Cour constitutionnelle.
Oui, mais le processus a déjà été interrompu par ceux qui sont censés garantir sa sincérité. Donc qu'est-ce que l'on fait? On va à la Cour, elle confirme et on fait quoi? On repart dans la rue, ça casse, ça pille et on crie ensuite que l'opposition veut brûler le pays.
Et en même temps, c'était difficile pour Jean-Ping de ne pas passer devant la Cour constitutionnelle alors que la communauté internationale lui demande de respecter la voie légale.
Oui, mais le problème est toujours le même. À mon sens, le problème reste le même. C'est vrai que on va dire que M. Jean-Ping était un peu entre le marteau et l'enclume. Mais je crois qu'à un moment ou à un autre, il faut mettre ce pouvoir dos au mur. Face à ses responsabilités, vous êtes sûr d'avoir gagné? D'accord, on ne dépose pas de recours. Prenez la responsabilité de brûler ce pays. Mais c'est sans notre complicité.
Bon.
C'est ça la vérité.
Le débat...
Je prends un exemple, excusez-moi.
Rapidement,
L'Union africaine qui était censée arriver ne vient plus. Pourquoi? Quelles sont les raisons de ce report?
Les raisons, on vous les a expliquées, en tout cas celles qui ont été officiellement délivrées, c'est que les agendas des différents présidents qui étaient susceptibles de se déplacer à Libreville aujourd'hui ne correspondaient pas, enfin les agendas étaient trop chargés pour permettre le déplacement de ces chefs d'État, donc report sine die, aucune nouvelle date n'a été annoncée, mais l'Union africaine dit vouloir essayer à son niveau de résoudre cette crise. Le débat est loin d'être clos. On aura évidemment l'occasion la semaine prochaine de revenir sur la situation politique au Gabon. En tout cas, merci à vous tous, aux centaines d'auditeurs qui nous ont contactés ces derniers jours pour s'exprimer sur l'antenne des RFI sur cette actualité. On va s'intéresser maintenant au dialogue national en République démocratique du Congo. Là aussi, c'est un sujet qui suscite une certaine passion et on va l'entendre certainement dans les propos des différents auditeurs qui vont nous rejoindre. Dialogue national pour essayer d'organiser au mieux l'élection présidentielle qui doit théoriquement se tenir au mois de novembre. Les travaux ont commencé. Cette semaine, on a parlé notamment du fichier électoral. On a parlé également du budget des élections, mais aussi du calendrier électoral. D'ailleurs, ce dernier point sera débattu aujourd'hui à Kinshasa. Un dialogue qui se déroule sans les deux principaux mouvements de l'opposition. Je voulais dire les deux principales forces de l'opposition qui boycottent donc les réunions. José, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous êtes à Kinshasa et vous dites que l'opposition a tort de boycotter.
L'opposition a tort de boycotter parce que la démocratie voudrait dire que lorsqu'il y a un problème, vous devez savoir vous parler. Et qu'aujourd'hui, au regard de tout ce que nous avons connu dans ce pays, il est impensable que des hommes politiques, soient-ils de l'opposition, se permettent aujourd'hui de menacer notre pauvre pays. Ce n'est pas normal. Le dialogue se tient parce que nous avons un problème. Ce problème est connu de tous. Nous ne serons pas organisés les élections à temps. Et nous ne pouvons pas, par le fait tout simplement que nous voulons organiser des élections, détruire notre propre pays. Ce n'est pas pensable.
Ouais. Voilà, enfin, ce que dit l'opposition, excusez-moi, c'est qu'il faut, quoi qu'il arrive, respecter la Constitution. Et la Constitution précise que le 19 décembre, Joseph Kabila n'est théoriquement plus président de la République, puisque c'est ce jour-là qu'arrive à échéance son second et dernier mandat.
Dans un pays démocratique, on doit pouvoir respecter les structures. Cette question a déjà été débattue. La Cour constitutionnelle s'est déjà appesantie sur ce problème-là. Nous ne reviendrons pas sur ce problème. Ce qui est important, c'est d'éviter tout simplement le chaos dans notre pays. Vous voyez aujourd'hui les Gabons, un pays de 2 millions d'habitants, qui brûle. Si dans notre pays, avec 480 millions d'habitants, si demain nous devons connaître les mêmes problèmes, ce ne sera pas facile à gérer. Et ce qui est important également, c'est de savoir que de part et d'autre, nous avons tous contribué à ce retard. Parce que en 2014, je vous rappelle que la CENI a proposé un calendrier qui a été partiel, évidemment, qu'on n'a pas accepté. La CENI est revenue avec un deuxième calendrier qui était global, mais qui n'a pas toujours été accepté. Jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à discuter là-dessus. Ouais. Comment voulez-vous que nous puissions aller aux élections dans ces conditions?
Ouais.
Juan,
enfin,
je vous rappelle également...
Alors, attendez, José, ne raccrochez pas. On ne va pas refaire l'histoire en rappelant ce qui s'est passé ces cinq dernières années, même si, évidemment, c'est important et ça permet de mieux comprendre la situation et le contexte politique en RDC. Abel nous rejoint. Il est également à Kinshasa. Bonjour, Abel.
Oui, bonjour, Juan Gomez.
Est-ce que vous partagez l'analyse de José?
Je m'inscris totalement en faux par rapport à ce qu'il dit. Hein, quand il ose dire que dans un pays démocratique, on doit respecter les structures. Oui, mais les structures, on les respecte au vu de ce qu'elles réalisent comme finalité, comme résultat. Hein, lorsqu'on a adopté la Constitution, il était prévu que le président de la République fasse deux mandats. Les deux mandats au cours desquels le gouvernement devait donner les moyens à la Commission nationale électorale indépendante pour qu'elle puisse organiser.
Abel, excusez-moi, c'est désagréable de vous écouter, non pas le contenu, non pas le fond, mais la forme. Vous avez la radio d'allumer derrière, et donc ça crée des interférences et c'est un peu compliqué de vous suivre. Donc si vous pouvez rapidement éteindre la radio et reprendre là où vous étiez arrêté. Rapidement.
J'ai pas de radio à côté de moi, Juan Gomez.
Écoutez, il y a des interférences, donc c'est compliqué. Je suis désolé, on va interrompre là, Abel. On vous rappellera la semaine prochaine. Et là aussi, vu le nombre de réactions, on aura l'occasion d'y revenir. José, bonne journée. Et on suivra évidemment tous ces travaux avec notre correspondante Sonia Rollet à Kinshasa. Faut-il organiser en priorité la présidentielle, les législatives, organiser d'abord les élections locales et ensuite la présidentielle, ou tout organiser finalement le même jour? Voilà la question qui sera débattue aujourd'hui même à Kinshasa. On en parlera, c'est promis, la semaine prochaine. Vos réactions au standard, réactions sur l'actualité au Burkina Faso. Bonjour Mohamedou.
Bonjour Juan, bonjour RFI.
Alors cette semaine, la gendarmerie de Ouagadougou a convoqué tous les anciens ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré, tout du moins ceux qui résident encore au Burkina Faso. Au total, une dizaine de ministres a été entendue. Et vous souhaitiez nous interpeller sur cette actualité?
Tout à fait. Cette actualité m'inspire deux sentiments. En réalité, je pense que tous les soubresauts que le Burkina a connus depuis 2014 tirent leur fondement de la volonté du président Compaoré de se maintenir au pouvoir et donc de modifier la suite, en fait. Donc, de ce point de vue, la décision de la gendarmerie d'entendre ceux qui ont participé au dernier conseil des ministres du président Compaoré, je pense que c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal.
Mmh. Oui, puisqu'on rappelle que l'adoption au Conseil de ministres du projet de loi qui modifie l'article 37 de la Constitution a engendré ensuite la révolte populaire qui a causé la mort de plusieurs dizaines de personnes et ensuite la chute de Blaise Compaoré. Donc il faut que la gendarmerie puisse écouter chacun de ses ministres pour savoir concrètement qui a fait quoi lors de ce Conseil des ministres.
Absolument, absolument. Je pense que c'est bon pour l'histoire du pays, c'est bon pour la démocratie, et je pense qu'on ne peut pas faire l'économie des procédures en ce sens-là. Mmh. Ça, c'est mon premier sentiment. Je pense que c'est tout à fait normal. Mais à côté de cela, j'ai un deuxième sentiment qui est plutôt mitigé, c'est celui de dire que les soubresauts qui s'en sont suivis ont causé vraiment des conséquences graves pour le pays. Il y a eu beaucoup de morts d'hommes, il y a eu des actes graves qui ont été posés et il y a des éléments de flagrance qu'on avait eu à relever depuis lors. Et il faut dire que la justice, elle n'avance pas beaucoup. Elle n'avance pas beaucoup. Il y a des dossiers plus corsés que celui-là.
Bien sûr. Elle n'avance pas beaucoup. Elle n'avance pas beaucoup ou elle avance trop lentement, vous nous dites. Mais en même temps, certains disent, mais à quoi bon vouloir s'acharner sur ces anciens ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté, comme l'affirment certains, de déstabiliser l'ancien parti au pouvoir, le CDP?
Oui, ce que je veux dire, c'est que je suis un peu sceptique aussi sur la volonté des dirigeants de l'heure de faire aboutir toutes ces procédures-là. Est-ce que les gros morceaux qu'on a sous la main, on n'est pas en train de faire traîner les choses et puis revenir sur ces seconds couteaux, on va dire, pour réveiller une certaine ferveur populaire, dire que bon, voici, le gouvernement, il travaille, on recherche la vérité auprès de ses anciens ministres, mais est-ce que c'est l'essentiel? Je disais tantôt que c'est normal, il faut qu'on sache. Mais il y a de gros dossiers qui sont encore dans le tiroir de la justice. C'est vrai que la justice dit qu'ils avancent. Et le président Compaoré a souhaité que d'ici la fin de l'année, on puisse commencer les jugements. Maintenant, est-ce que ça se fera dans ce timing-là?
Mais on verra. En tout cas, on verra. Vous avez des doutes. On aura certainement l'occasion d'en reparler. Merci de votre fidélité. Et je salue évidemment tous ceux qui nous écoutent à Ouagadougou. Je sais que vous êtes nombreux tous les jours à l'écoute d'RFI. Les élections locales en Guinée, elles devraient enfin avoir lieu le 18 décembre. C'est la date, en tout cas, qui a été proposée cette semaine par la commission électorale. Ibrahima, bonjour.
Oui, bonjour, Juan.
Vous nous appelez de New York, vous êtes guinéen, vous avez évidemment suivi cette annonce qui est attendue par les Guinéens, puisque initialement ces élections auraient dû se tenir en 2013, puis ensuite elles ont été reportées en 2014, en 2015, finalement elles devraient se tenir à la fin de cette année, et c'est un soulagement pour vous ?
Oui, écoutez, moi je suis un peu sceptique, hein, parce que là, la Commission nationale électorale qui nous a donné cette date du 18 décembre, auparavant aussi, cette commission nous avait donné la date du 30 juin. Rappelez-vous que ces élections devraient être organisées depuis le 30 juin, et la CENI a reporté sous prétexte qu'ils vont combiner les conseils des quartiers, des districts et les élections communales pour le mois d'octobre. Et le mois d'octobre aussi, la date qu'ils nous ont donnée, ils n'ont pas pu tenir. Donc ça veut dire que au mois de juin, ils n'ont pas pu tenir la date. Au mois d'octobre, ils n'ont pas pu tenir la date. Donc ils nous donnent encore la date du 18 décembre.
Mais enfin excusez-moi Ibrahima, la CENI dit être techniquement prête.
Non, je pense que c'est pas vrai, parce que d'abord, les acteurs politiques ne sont pas associés à cette décision. Rappelez-vous que cette fois-ci, il y a un dialogue qui doit s'annoncer à partir de la semaine prochaine entre les acteurs politiques de la Guinée. Et la CENI n'a pas attendu que le dialogue là. Et le premier point à l'ordre du jour, c'est l'organisation des élections communales.
Oui.
Donc, ils n'ont pas attendu d'abord que ce dialogue là commence. Et du coup, ils nous ont donné cette date du 18 décembre, alors que.
Et l'opposition, excusez-moi de vous interrompre, Ibrahima a déjà contesté cette date du 18 décembre en disant, écoutez, c'est inadmissible, il est inadmissible qu'elle soit fixée de façon unilatérale.
Voilà, exactement, parce que les acteurs n'ont pas du tout été associés. Donc l'opposition avait écrit une lettre à l'administration du territoire, et le premier point à l'ordre du jour, c'est d'abord ces élections communales. Il fallait d'abord discuter, trouver un consensus. Mais ça n'a pas été le cas, et cette CENI, ça a été toujours une fuite en avant.
Bon, en tout cas, il revient, c'est important de le préciser au président de la République, de fixer lui-même cette date. Donc pour l'instant, le 18 décembre, c'est la proposition de la commission électorale. Merci à vous d'écouter RFI en pleine nuit à New York. Désolé pour tous ceux qui patientaient au standard, on avait prévu de parler notamment de la sécurité au centre du Mali. Là aussi, vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'y revenir prochainement. Lundi, on parlera de Robert Mugabe, de plus en plus contesté, après 36 ans au pouvoir, la société civile est